Et si nous prenions cette parabole pour nous, et si nous, catholiques, membres et particulièrement représentants de l'Église, nous nous reconnaissions dans l'attitude de ces invités qui prennent les premières places auprès du maître des noces, le Christ, c'est-à-dire la vérité incarnée. N'est-ce pas ainsi que nous pouvons nous comporter parfois, tant nous sommes convaincus de détenir la vérité? Le débat reprend cette rentrée sur les questions de bioéthique. Et nous pouvons nous interroger sur notre certitude de détenir la vérité par notre lien au Christ. Notre mission est-elle de l'annoncer, lui, le sauveur des hommes, ou de le représenter, lui, le juge des vivants et des morts? Nous devons nous interroger sur le rôle que nous aurions d'éclairer les consciences. C'est l'Esprit Saint, la lumière de la conscience. Et nous ne pouvons pas tenir en même temps que Dieu parle à toute personne. Dieu parle à toute personne dans son cœur et chercher parfois ou être tenté de nous substituer à lui. Est-ce qu'un raisonnement peut toucher le cœur? Est-ce que la meilleure façon d'éclairer, de réveiller les consciences n'est-elle pas d'abord de purifier la nôtre? De suivre le Christ, l'exemple du Christ. L'exemple du Christ plus proche des pauvres que des puissants, que des élites de son temps. C'était un jour de sabbat que Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas et ces derniers l'observaient. Vous voyez que quelques versets ensuite ont été sautés dans le passage que nous avons entendu. Nous passons du verset 1 au verset 7. Et il y a une première discussion qui est sautée dans ce passage qui porte sur la possibilité légale de guérir le jour du sabbat un malade qui est présent, en l'occurrence le texte dit atteint d'hydropisie. J'y reviendrai. Est-ce qu'on peut faire le bien? Est-ce qu'on a le droit le jour du sabbat? Les problèmes de législation ne sont pas nouveaux. Les problèmes de législation existaient du temps de Jésus. Les problèmes de législation ne sont pas toujours solubles. Tant de problèmes que nous ne savons pas résoudre aujourd'hui dans tous les domaines. Vous avez été en vacances, vous avez pris la route les uns et les autres, comme moi d'ailleurs, et on sait que d'année en année, le nombre de conducteurs sans permis augmente. Plus de 600 000, 700 000 conducteurs qui roulent aujourd'hui sans permis. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Est-ce qu'il faut adapter la loi? Nous sommes bien placés dans l'Église pour savoir qu'on ne peut pas tout réglementer. Dans le débat sur la bioéthique, vont revenir des questions fondamentales sur la vie naissante, la nature de la vie de l'embryon, le statut du fœtus. Alors nous y sommes très sensibles. Nous y sommes très sensibles parce que nous vivons de l'espérance de la vie éternelle. Et parfois nous le vivons avec cette image, dont nous disons, nous en ignorons tout, un peu comme l'enfant dans le ventre de sa mère. Ignore tout de la vie à venir. Mais c'est une comparaison qui s'arrête là parce que la vie dans le ventre de notre mère, la vie intra-utérine, était certainement un bonheur comparé à la vie présente. À l'inverse justement de ce que nous espérons de la vie éternelle, du bonheur éternel. La majorité de nos contemporains n'ont pas cette espérance. Et ils acceptent dans leur majorité que l'embryon ne devienne un sujet de droit qu'après sa naissance. Pourtant, c'est ce que nous avons tous été. Nous sommes tous passés par là. Et pas la foi, la sagesse. La sagesse nous invite à ne rien renier de ce que nous avons été. Rien renier de ce que nous avons été. Alors que nous étions déjà connus, aimés de Dieu. Il y a un psaume qui dit « Mon embryon, tes yeux le voyaient. » Déjà connu de Dieu. Et un autre psaume dit « Seigneur, mon Dieu, mon espérance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. » Nous sommes très attachés au couple de l'homme et de la femme, à la famille comme lieu de la génération, parce qu'elle est pour nous une magnifique figure naturelle de la communion des personnes. Comme nous sommes très sensibles à toutes les questions de filiation, parce que c'est le sens de notre baptême, la filiation adoptive. Nous sommes devenus par le baptême enfants de Dieu. Mais sur tous ces sujets de commencement et de fin, de vie et de mort, de génération et de filiation, est-ce que nous pouvons accepter de ne pas les prendre place trop vite, à côté de la vérité incarnée du Christ? Pouvons-nous accepter de ne pas nous prévaloir de cette relation que nous avons avec Dieu? Nous en réjouir, oui certainement, la partager assurément. Nous en prévaloir, non. Lorsque quelqu'un t'invite à un repas de noces et Jésus ne va pas t'installer à première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré, plus digne que toi. Nous savons très bien quel est aux yeux de Dieu ce critère de la dignité, de la considération. Ce n'est pas celui de la science, c'est celui de la charité. Sur tous ces sujets de bioéthique, il est remarquable que non seulement chacun est convaincu de détenir la vérité, que les autres ont tort, mais également chacun est convaincu de faire œuvre de charité. Et chacun se renvoie l'argument avec le même aplomb, convaincu de défendre des droits, du droit d'avorter pour les personnes qui ne veulent pas un enfant ou un type d'enfant, du droit inverse d'avoir un enfant dans des situations de vie de plus en plus variées, et c'est l'argument qu'on entend sans cesse, que vous connaissez, si la science et la technique peuvent apporter une aide, pourquoi refuser ? Il y a avant toute chose la règle d'or. Ne faites pas à vos enfants ce que vous n'auriez pas voulu qu'on vous fasse. Nous croyons que la charité ne consiste pas à satisfaire toutes les demandes. La charité consiste toujours à faire un choix, parce que nous ne pouvons pas tout faire. Nous croyons, nous, par notre foi, que nous ne pouvons rien faire sans le Seigneur. Mais assurément, indépendamment de la foi, nous ne pouvons pas tout faire. Arrêtons de laisser croire que tout est possible. Il n'y a que pour Dieu que tout est possible. Lorsque nous disons que tout est possible, nous flattons, nous faisons qu'augmenter la toute-puissance humaine. Si la charité se traduit nécessairement en actes, elle est un choix de vie qui privilégie ceux qui en ont le plus besoin. C'est la deuxième partie de l'évangile, la deuxième parabole qui demande ce choix, ce que l'Église appelle l'option préférentielle pour les pauvres. Il serait absurde qu'au moment où les services médicaux de notre pays, parmi les meilleurs du monde, au moment où les services médicaux de notre pays manquent de plus en plus de moyens pour les urgences les plus basiques, voire pour les urgences tout court, on en élargit sans fin le domaine, ou plutôt dans des domaines sans fin, avec cette question toujours, ce qui est éthiquement contestable doit-il être automatiquement remboursable? Dans l'Évangile, le malade que les pharisiens ne voulaient pas guérir le jour du sabbat était atteint, dit le texte, d'hydropisie. Un gonflement d'eau, c'est plus employé en médecine aujourd'hui, simplement c'est utilisé pour les poissons, dans les bocaux, un gros gonflement. Et c'est évidemment un symbole, c'est une réalité, mais c'est un symbole de leur orgueil, comme la grenouille qui vous laisse faire aussi grosse que le bœuf. La première question éthique, avant celle des possibilités techniques, c'est celle des possibilités économiques. Des choix politiques et économiques pour assurer à tous des conditions de vie dignes de soins, de santé, d'éducation, de logement, de travail. Il y a un paroissien qui est venu me voir cet été pour me dire son inquiétude de cet écart, lui semblait-il, la façon dont il disait, l'Église s'isole. L'écart entre des œuvres admirables de soins, d'action sociale, d'entraide, d'éducation, et des prises de position rarement comprises, souvent péremptoires. Les gens aiment beaucoup ce que nous faisons, pas ce que nous disons. Nous avons, nous, chrétiens, disciples du Christ, trois mandats, trois mandats par lesquels mettre en œuvre la charité du Christ, qui sont l'espérance, le pardon et la grâce. Dans tous les sujets de société, nos convictions procèdent d'abord de l'espérance. L'espérance de connaître le bonheur éternel, filial auprès de Dieu. La condition, c'est la réconciliation avec lui et entre nous. Nous réconcilier en particulier à ceux que nous éloignons de l'Église par des déclarations trop brutales. Et puis la grâce, ce dont nous vivons, ce qui nous réunit, qui nécessite d'être mieux comprise, la grâce, la gratuité de l'amour. La gratuité, ce n'est pas ce qui est payé par quelqu'un d'autre que soi. C'est pas ça ce qui est gratuit. C'est la marque du service désintéressé, du service fraternel auquel le Seigneur nous convie. Occupez-vous des pauvres et des malades. Heureux seras-tu, dit Jésus, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour, cela te sera rendu à la résurrection des justes. Ainsi se conclut le passage d'Évangile. À ces mots, poursuit le texte, l'un des convives lui dit, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Je vous invite à aller voir aujourd'hui ou cette semaine la réponse de Jésus, d'aller reprendre le chapitre 14 de Saint-Luc, de voir comment Jésus répond à cette apostrophe. Vous verrez cette réponse, elle est sévère. Elle nous renvoie à la seule question à nous poser. Comment toucher les cœurs ? Comment toucher les cœurs ? Comment permettre à l'Esprit Saint de se déployer ? C'est l'Esprit qui donne la vie. C'est l'Esprit Saint qui fait l'unité. C'est l'Esprit Saint que le Christ a promis, qu'il nous a donné. Pour que nous comprenions que l'amour ne peut pas nous diviser, ne peut que unir, faire grandir. C'est ce que nous contemplons sur la croix. Le cœur transpercé de Jésus. C'est le signe de ce que nous avons tous à vivre. Nous laisser toucher au cœur par l'amour. L'eau et le sang qui sont sortis de son cœur. L'eau qui est sortie avec son sang, c'était notre orgueil. C'était notre orgueil. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, dit Jésus, que l'on saura que vous êtes mes amis.